Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. Aujourd'hui, la deuxième partie de cette émission spéciale, à la place et en lieu du journal régional. Avec moi, François. Bonjour François.
Oui, bonjour Evan, bonjour à tous.
Deuxième partie de la mise en voie des livres de Patrice Favaro.
Nous avons entendu hier les deux premiers textes de l'auteur jeunesse bien connu Patrice Favaro, qui était en direct en plateau. Des scolaires du Carrefour de Moyenne-Durance ont travaillé au sein d'ateliers lecture avec leurs enseignants et l'auteur lui-même, avant de passer aux enregistrements des lectures puis au montage final, ce que nous entendrons dans un instant. C'est une opération pédagogique originale à laquelle nous avons volontiers pris part, et je dois dire, avec beaucoup de plaisir. Les textes « La fille du loup » et « Les oreilles de Sigismond » de Patrice Favaro abordent avec humour et sensibilité des questions graves comme le respect de la différence ou le racisme, par exemple. C'est aussi une démarche citoyenne dont les enfants se rappelleront longtemps et qui a eu pour cadre l'école publique. Il y a quelques semaines, nous avons présenté ces lectures radiophoniques aux jeunes lecteurs et à leurs enseignants dans une séance collective d'écoute où l'émotion de chacun était palpable. Avant de diffuser ces deux derniers textes, Jean-Luc Villain, professeur au collège Camille Raymond, rappelle au micro de Mario Poncelet le travail réalisé par ses élèves, mais d'abord la cheville ouvrière de cette opération pour la médiathèque Louis-Joseph, Katia Veillon.
Nous avions contacté Patrice Favaro pour un projet de mise en voie de ses textes avec une proposition aux enseignants à la rentrée 2017. Patrice Favaro, c'est un auteur que nous aimons particulièrement. C'est un baroudeur, un voyageur, un poète, un nomade et qui rencontre et qui témoigne de ses voyages à travers ses écrits. C'est pour cela que nous l'aimons particulièrement. Il se dit écrivain et citoyen du monde et il se dit également végétarien, ce qui nous amuse beaucoup. À travers ses écrits, justement, il fait passer ses idées. Il interroge les jeunes et les enfants sur des questions d'actualité, sur des questions phares qu'on peut tout à fait aborder en classe. Et la proposition, c'était surtout de pouvoir travailler deux textes qu'il serait possible de mettre en voix, de scénariser, de faire un travail sur plusieurs séances, et ensuite de le proposer en diffusion à la radio Fréquence Mistral précisément.
Quelles ont été les étapes phares de cette idée, tout simplement ?
Alors, les étapes phares, c'était d'abord de soumettre le projet à des enseignants intéressés. Donc, une première réunion a eu lieu au mois de septembre. Une réunion qui permettait la rencontre de différents enseignants, de groupes scolaires de l'agglomération, qui réunissaient donc l'auteur Patrice Favaro et le responsable de la radio Fréquence Mistral, François Malabat. L'idée, c'était de proposer une bibliographie sélective des textes de Patrice Favaro et de donner le choix aux enseignants et aux enfants. Deux titres sont ressortis de cette sélection, « La fille du loup » et « Les oreilles de Sigismond ». Ensuite, trois séances proposées dans les différents groupes scolaires, avec ensuite une réunion collective pour présenter le travail que chaque groupe scolaire avait réalisé. Les groupes scolaires choisis, on avait donc Père Huy avec les CM1, CM2 de Maureen Kennedy. On avait le groupe Paul Appy de Saint-Auban avec l'enseignante Chantal Moin et le directeur Samuel Olliette. Nous avions également Sabine Bach de l'Escale avec les CM1, CM2. Et le collège, avec le professeur de français Jean-Luc Villain, qui présentait la 6e 5, en compagnie de Monsieur Tiempon, professeur de musique, et de Madame Catherine Borot, documentaliste au collège.
Des enfants, concrètement, lors de ce projet, qu'ont-ils fait ?
Alors, il y avait des consignes qui avaient été proposées. Au départ, l'idée que chaque ouvrage serait lu et analysé, que les différents thèmes seraient abordés entre classes, que des ateliers de lecture seront organisés pour faciliter l'enregistrement des textes, la distribution des rôles, la distribution de la narration et des bruitages. Nous avions proposé que les rencontres interclasses se feraient dans la salle d'expo du centre culturel, enfin à la médiathèque, en présence de l'auteur et de la radio, donc représentée par François Malabave et Mario Poncelet. La médiathèque prenait en charge les séances collectives au centre culturel. Le reste des interventions était pris en charge par les établissements scolaires.
Quelle a été la fréquence de ces ateliers lors de ce projet ?
Il y a eu 3 séances assez rapprochées qui ont été proposées à chaque groupe scolaire. Des séances d'une demi-journée avec au départ la scénarisation, ensuite la distribution des rôles, un travail sur la diction et l'interprétation, puis ensuite un travail sur les bruitages qui allaient servir à raconter l'histoire. En dernier lieu, il y a eu l'enregistrement sonore qui a été réalisé ainsi que le travail de montage par Mario Poncelet et François Malabave. Je voudrais remercier les enseignants qui ont participé à ce projet, qui sont toujours fidèles à nos propositions, que l'on côtoie régulièrement chaque année. Je remercie Maureen Kennedy de l'école de Pervuy. Je remercie Jean-Luc Villain, collège Camille Raymond, ainsi que la documentaliste Catherine Bourreau, avec qui nous faisons de beaux projets chaque année. Monsieur Tiempon aussi, qui a assuré dans le côté technique et musical. Sabine Bach, qui est sur l'escale et avec laquelle j'ai toujours travaillé depuis de nombreuses années. Elle était responsable de l'école Freinet à Château-Arnoux et elle est maintenant responsable de l'école primaire de l'escale. Également l'école Paul Lapi, qui a participé cette année avec Chantal Moin et le directeur Samuel Oliette. Également un remerciement pour l'équipe de Lire et Faire Lire de l'UDAF, qui nous a accompagnés lors de certaines séances pour les encadrements et qui ont été très utiles, notamment pour des séances de bruitage. Voilà, elles ont participé avec nous aussi pour certains exercices de diction. C'était des ateliers joyeux, enrichissants, et on a croisé des enfants épanouis à travers ce projet, d'abord un peu intimidés et puis ensuite épanouis. Ils ont pu, grâce à ces petits textes, se réaliser. Donc ils avaient le choix de ces deux textes, La fille du loup et Les oreilles de Sigismond. Ce projet a permis aux enfants d'aborder le livre d'une manière originale, ludique. C'était important, c'est un projet qui permettait de réunir plusieurs classes, de mettre en lien des classes de cours moyen et des classes de sixième, et de leur permettre de se rencontrer à travers les deux textes de Favaro, de se rencontrer, de travailler ensemble. Au départ, on a croisé des enfants qui étaient intimidés, peut-être en réserve pour certains, et qui se sont épanouis au fil du projet. Pour certains, se sont même mis en abîme et ont vraiment tout donné au moment de la réalisation de la mise en voie.
Les enfants de notre secteur n'oublieront sûrement jamais cette manifestation. C'est tout simplement magnifique comme projet.
De pouvoir le réaliser, c'est extraordinaire d'avoir la possibilité, grâce au budget qui nous est alloué chaque année, de faire autre chose que du prêt de livres, du conseil de livres aux lecteurs, et de pouvoir justement travailler en réseau avec des enseignants, avec des enfants, avec des associations quelquefois comme la Marelle ou le Point Rencontre, un budget avec lequel nous pouvons inviter nos auteurs préférés, nos illustrateurs préférés, des expositions, des artistes que nous aimons. C'est vraiment formidable, on a beaucoup de chance. On a également une liberté de choix totale. Donc on est vraiment heureuse avec mes collègues de la médiathèque de pouvoir proposer ces événements, d'être suivie par la responsable de la médiathèque, Suzelle Badet, qui nous accompagne tout au long de ces manifestations. Je remercie Patrice Favaro particulièrement pour nous avoir suivis, conseillés, assistés, pour avoir porté le projet à bout de bras, pour avoir été magnifique auprès des scolaires dans l'envie de leur donner à dire et à lire. Je veux également remercier l'équipe de Fréquence Mistral avec Mario Poncelet et François Malabave qui ont été des techniciens hors pair, qui ont accompagné des enfants et qui leur ont donné envie peut-être de faire ce métier puisque les enfants étaient curieux et avaient envie de visiter la radio. Également mes collègues enseignants qui ont porté aussi ce projet tout au long de l'année et fait en sorte que les enfants puissent travailler autour de ces textes proposés, s'accomplir, se réaliser. Merci à tous pour ce projet que j'espère on pourra renouveler.
Je voudrais dire d'abord que j'ai été invité par la médiathèque de Château-Arnoux qui me relance régulièrement. Je les en remercie. C'est très gratifiant pour moi et c'est toujours des beaux projets. Et celui-là particulièrement, non, pas particulièrement parce qu'on n'a fait que des bons projets. Favaro, on l'avait rencontré l'année dernière, justement sur une invitation de la médiathèque au Festival du Livre à Volonne. Et il y avait eu un travail dont il avait été beaucoup sensible. Ce qui fait qu'on a prévu, enfin voilà, on s'est dit, ben tiens, on prolonge cette année. Et effectivement, l'expérience de mise en voix, ça a été un travail très productif et que les élèves ont apprécié, oui, effectivement. Ouais.
Ça a été un moment important dans votre quotidien en tant que professeur avec vos élèves ?
Oui, bien sûr, ça a été un moment très important, ouais. Comme tous les projets que je mène, parce que la classe, sans vouloir parler de moi, mais la classe qui en a bénéficié là, ils ont 4 projets dans l'année et c'est effectivement des moments forts qui vont rester dans les mémoires et dans lesquels ils apprennent autrement et autre chose et voilà, ouais, c'est vraiment bien. Ouais.
Vos élèves, comment se sont-ils adaptés au projet ? Ça a été facile ? Il y a eu des petits moments compliqués ? Comment ça s'est déroulé ?
Il y a toujours des moments où on se demande si on va y arriver. Il y a des moments où, voilà, ça lâche un peu. Il faut relancer la dynamique et il faut faire monter la mayonnaise. Et en fait, ça fonctionne toujours. On s'en sort toujours bien, quoi. Mais voilà, c'est comme tout projet, hein. C'est-à-dire qu'on devient un groupe, on fédère la classe, on travaille non pas tout seul, mais avec des partenaires et on est en contact. Chacun fait le mieux et puis c'est là que ça se passe. En fait, hein. Je pense que Patrice, il a été très content aussi du travail. À la radio, c'était bien, quoi. Les rencontres, le fait de travailler non pas sur 2 heures, mais de se voir 3-4 fois dans l'année, travailler sur 4-5 mois aussi, c'est important. Se voir, se revoir, parler des gens, de ce qu'ils font, voilà. Et tout ça, ça fédère, effectivement. Ouais.
Qu'ont pensé vos élèves, justement, du rendu final de leur travail ?
Le rendu final, ils ont été très émus. Ouais, en fait, ils ont été très émus quand ils se sont écoutés et il y a eu vraiment des réactions très fortes à ce moment-là. Ouais. Ils sont très fiers d'eux, en fait. Et c'est ça le but du jeu, en fait, c'est qu'ils soient fiers d'eux, les élèves. Hein. Que ce soit monter sur la scène, dire un texte, le comprendre, parler à des adultes, boire un coup à la fin, être ensemble, qu'il n'y ait plus cette relation de maître à élève, mais qu'on la bascule un petit peu, on montre qu'ils peuvent apprendre, qu'ils vont devenir des maîtres. Voilà, ça y est, on a gagné. Et ces projets-là le permettent.
Et on imagine que vous aussi, vous êtes fier d'eux.
Ah, moi, je suis fier d'eux, oui. Oui, bien sûr, ouais. Moi, ça me fait pleurer quelquefois.
On imagine que certains élèves se sont peut-être ouverts à travers ce projet. Certains élèves, peut-être, qui s'impliquent un petit peu moins d'habitude.
Bien sûr, évidemment, oui. Des élèves. C'est-à-dire, je dirais, moi, que les élèves se révèlent. Mmh. On se révèle un peu. C'est des révélations, hein. Bon, il y a des élèves très scolaires. Ça fonctionne très bien, ils n'ont pas besoin de... Ils lisent. Il y a des élèves qui lisent pas, qui sont complexés, et quand on leur donne un petit rôle à faire, ils le jouent, et c'est 10 fois mieux que l'élève qui est scolaire, qui sait pas le jouer, et qui est intellectuel seulement, quoi. Mmh. Voilà, on touche à d'autres sensibilités et à d'autres talents. Mmh. Chez des enfants qui ont des difficultés, mais qui sont parfaitement capables de faire autre chose, et on les met dans une situation où ceux qui étaient les plus à l'aise hier, à l'école, ne sont pas toujours les plus à l'aise aujourd'hui. Mmh. Et ceux qui n'étaient pas à l'aise à l'école, et on sait des fois que c'est foutu pour eux, ils arrivent là, ils rentrent dans le projet, ils se disent « Ah tiens !» Et puis là, le prof qui dit « Ah, tu sais, c'est super bien joué !» Voilà, c'est à ça que ça sert là aussi, les projets. On sort de nos 4 murs, là, hein, je ne suis pas contre du tout, hein, mais ça révèle des talents.
On imagine donc que vous êtes satisfait de ce partenariat et de ce travail.
Ah mais toujours, j'adore travailler avec Katia.
Jean-Luc Villain, professeur de français au collège Camille Raymond et Katia Veillant pour la médiathèque Louis-Joseph, deux partenaires de cette opération originale. Je rappelle que j'ai reçu Patrice Favaro ici même hier pour évoquer le travail réalisé par les scolaires. Je vous propose maintenant d'écouter dans un premier temps la version de son texte « Les oreilles de Sigismond » par la classe de CM1 et CM2 de Sabine Bach de l'école de l'Escale.
Sigismond a d'immenses oreilles. Pourquoi ? Épais mystère. Celles de ses parrains sont tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Du côté de ses 7 frères et sœurs, aucun n'en a de semblable. Une terrible injustice. Il est le seul à être né avec 2 belles feuilles de chou. Quand Sigismond se regarde dans une glace, il les juge
grotesques, gigantesques, en un mot comme en 1000, abracadabrantesques.
Il sait bien que tous ceux qui les aperçoivent pour la première fois ont un avis identique au sien. La preuve, quel que soit l'endroit où il se trouve, chez lui, à l'école, au jardin public, dans la rue, il y a toujours quelqu'un pour se moquer de cette maudite paire d'oreilles qu'il ne parvient même pas à cacher sous une casquette. On lui dit des choses comme ça.
Avec tes nageoires, tu dois être un champion de natation.
De quelle planète venez-vous, monsieur l'extraterrestre ?
Et que verse-t-on dans ces 2 grands entonnoirs ?
Ses oreilles, Sigismond aimerait bien les échanger.
Oui, mais qui en voudrait ?
S'il pouvait rencontrer quelqu'un comme lui, il se sentirait moins isolé.
Mais est-ce qu'il existe seulement une personne dans le monde qui me ressemble ?
La question se met à tourbillonner dans sa tête, jusqu'à ce que ça devienne aussi insupportable qu'un caillou dans un soulier. Pour tirer cette affaire au clair, Sigismond se rend à la bibliothèque la plus proche pour y faire des recherches. Il consulte des dictionnaires, des encyclopédies, des atlas, des livres qui pèsent terriblement avec tout ce que des savants ont entassé dedans.
Lapin, lièvre, âne, éléphant, rien d'autre à la rubrique « grandes oreilles ».
Après de longues heures passées à feuilleter des dizaines de pages sans succès, Sigismond tombe par hasard sur un livre ancien et poussiéreux, « Voyage au pays des hommes sauvages ». L'auteur raconte qu'il a découvert une lointaine contrée où les habitants ont des oreilles qui pendent jusqu'aux genoux. Un large sourire se dessine sur le visage de Sigismond.
Il y aurait donc des gens pour qui ce serait pire que pour moi.
Mais l'auteur ajoute tout de suite après que ses habitants possèdent également un seul pied qui leur sert de parasol, ainsi qu'une bouche tordue au beau milieu de la poitrine. Sigismond referme le livre avec un haussement d'épaule.
Celui qui a écrit ça ne peut être que le roi des menteurs.
Heureusement, avoir de grandes oreilles n'a pas que des inconvénients. Sigismond entend ce que personne d'autre que lui ne pourrait même soupçonner. Qui connaît le bruit que fait ? Une feuille morte quand elle tombe par terre. Qui perçoit distinctement ? Le battement d'ailes d'un papillon qui traverse le pré. Qui a jamais entendu ? Le froissement des pétales d'une rose lorsqu'elle s'ouvre. Personne d'autre que Sigismond. C'est pour cela qu'il aime s'asseoir au milieu de la nature, autour de lui.
Ça craque et ça crisse en miniature, ça grince et ça bruisse en minuscule.
Il appelle ça le chant qui monte du monde.
Le vent lui souffle des secrets à l'oreille. Les arbres frissonnent en lui racontant des histoires qui font un peu peur. Les herbes sèches lui chuchotent des confidences tout en se balançant. Le ruisseau lui murmure des souvenirs qui remontent à la source.
Un vrai concert, une symphonie, que n'entend que Sigismond. Une nuit d'hiver, il s'est brusquement redressé sur son lit. Des flocons de neige en tombant sur les toits venaient de le réveiller en sursaut. On croit que le silence règne sur la ville quand tout le monde dort. C'est faux. C'est le moment que choisissent les petites bêtes pour faire du tapage nocturne aux oreilles de Sigismond.
Un souriceau lisse ses moustaches dans un coin du grenier. Une araignée tisse sa toile au plafond. Un ver ronge le bois d'un vieux meuble. Un chat se glisse sur la gouttière du toit en faisant patte de velours.
Il y a cependant une chose que Sigismond n'aimerait jamais avoir entendue. Le bruit que fait en secret le chagrin.
Les sanglots qu'on essaie de retenir. Les mots qui restent coincés en travers de la gorge. Les cris
qu'on garde en dedans et qui vous étouffe.
Cette nuit, précisément, à l'étage du dessous, ses parents se querellent une fois de plus. Ils le font à voix très basse, mais en parlant tous les deux en même temps, sans s'écouter, comme si c'était boucher les tympans avec les mains. C'est pour cette raison qu'on dit de deux personnes qui se disputent tout le temps qu'elles ne s'entendent pas bien.
Sigismond s'est réfugié au fond de son lit, pour ne pas penser aux mots que ses parents se jettent à la figure, même si c'est en chuchotant. Il préfère se souvenir du chant qui monte du monde. Il se demande quelle sorte de musique fait la terre en tournant sur elle-même.
Imagine. Ses oreilles glissent dans son dos et se transforment en ailes, des ailes immenses et majestueuses. Il peut voler très haut maintenant, par-dessus les villes, par-dessus les champs. Tout semble si petit quand on prend de la hauteur. Sigismond suit le cours des rivières, puis des fleuves, et il rejoint enfin l'océan. Il plane au-dessus des vagues qui courent comme les doigts d'un musicien sur les cordes d'une harpe.
Les oiseaux de mer lancent des notes de flûte, de hautbois, de clarinette ou de basson. Tout en bas résonne la corne de brume d'un navire, tandis que la brise marine siffle en faisant ses gammes.
Sigismond tourne encore plus haut, plus haut. Soudain,
coup de cymbale, roulement de tambour.
Puis plus rien. Le silence. L'horizon s'illumine de mille éclairs et la terre devient une boule bleue qui flotte dans un ciel noir, tout piqueté d'étoiles. Sigismond tend l'oreille.
Un son étrange, une sorte de chuchotis qui viendrait de très loin, un bruit de fond à peine perceptible, même pour quelqu'un comme lui.
C'est la première fois que Sigismond entend
la musique que font les astres dans l'univers.
Quel beau son et lumière!
Mais au matin, quand il se réveille dans son lit, il a envie de pleurer. Ses grandes oreilles ont retrouvé leur place de chaque côté de son visage.
Quand ils se rendent à l'école, les frères et les sœurs de Sigismond préfèrent garder prudemment leur distance avec lui. Ils s'en méfient. Comment faire confiance à quelqu'un qui peut tout entendre? Même le plus petit des secrets qu'on partage entre soi.
On ne peut jamais être sûr que Sigismond ne va pas tout répéter aux parents.
Chaque jour, il fait donc seul le trajet de l'école, tandis que ses sœurs et ses frères marchent loin devant lui. Les mots qu'il voudrait leur dire à ce moment-là, il est obligé de les tenir enfermés. Ils lui restent sur le cœur. Ils finissent par s'y bousculer comme un troupeau en pleine débandade. Certains de ces mots sont petits, gentils, doux, mais il y en a également des gros, des durs, et d'autres qui sont aussi tranchants que la lame d'un couteau.
Impossible de les surveiller tous.
Évidemment, certains parviennent à s'échapper. Sigismond se met alors à leur courir après au beau milieu de la rue. Mais quand un mot est lâché, est-ce qu'on peut le rattraper? Sigismond se conduit de façon de plus en plus bizarre. Ses frères et sœurs commencent à le prendre pour un fou. Par chance, voilà qu'un beau jour, Sigismond rencontre Marthe. Une nouvelle petite voisine. Elle aussi se rend seule à l'école. Elle ne connaît encore personne dans le quartier. Et les enfants qui y habitent n'ont pas envie d'aller vers elle, puisqu'ils ne la connaissent pas. Ce jour-là, c'est donc elle qui fait le premier pas et demande à Sigismond si elle veut bien aller son chemin en sa compagnie.
Marcher à deux, c'est beaucoup mieux.
Le cœur de Sigismond se met à battre si fort dans sa poitrine qu'il a peur qu'elle puisse l'entendre. Mais non, il n'y a aucun risque. Marthe a des oreilles normales. Enfin, pas vraiment.
Elles sont bien plus mignonnes que toutes celles que j'ai jamais vues. Depuis qu'il a rencontré, Sigismond ne s'est plus jamais rendu à l'école sans Marthe. Pas une seule fois, pendant tous ses trajets, elle ne lui a parlé de ses oreilles. C'est vrai qu'ils ont toujours mille choses à se raconter, mais Sigismond est rongé par le doute.
Peut-être qu'elle trouve mes oreilles affreuses, atroces, mais qu'elle n'ose pas me le dire. Peut-être qu'elle s'en moque dès que j'ai le dos tourné. Peut-être que...
Le doute, c'est comme un bouton qui vous démange. Vous finissez par vous gratter, même si ça ne peut qu'empirer. Sigismond ne parvient pas à résister. Il faut absolument qu'il pose la terrible question.
Mes oreilles, tu les trouves comment ?
Marthe les examine attentivement, comme si elle les avait jamais remarquées auparavant.
Elles me font penser à des grands coquillages, ceux dans lesquels on entend la mer.
Sur ces mots, elle s'approche de lui, comme si elle voulait écouter le bruit des vagues à l'intérieur d'une des oreilles de Sigismond. Mais au lieu de cela, elle dépose un baiser sur sa joue. Et ça fait le petit bruit le plus doux qui puisse exister. Ils se remettent aussitôt en route, sans prononcer une parole. Ils n'en ont pas besoin pour savoir ce qu'ils pensent l'un et l'autre.
Marcher à deux, c'est vraiment mieux.
Des années ont passé. Sigismond et Marthe ont grandi en continuant tranquillement leur chemin. Un seul et même chemin pour tous deux. Marthe est devenue une pianiste célèbre, ce qui fait le bonheur de Sigismond, qui passe des heures à l'écouter quand elle répète un concerto. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, ils ont eu à leur tour des enfants, mais aucun d'entre eux n'a hérité des oreilles de Sigismond. Il en est heureux, un peu déçu peut-être aussi. Il lui faut se rendre à l'évidence. Personne d'autre que lui ne possédera jamais de pareilles feuilles de chou. C'est désormais sans importance. On ne s'en moque plus. Sigismond est un monsieur bien comme il faut, que tout le monde salue dans la rue. Il porte un beau costume sombre, une cravate à pois, des lunettes rondes et une barbe bien taillée. Ce qu'il fait, il est médecin. Un médecin d'un genre un peu spécial. Cet après-midi-là, une dame est entrée dans le cabinet de consultation où Sigismond reçoit ses patients. Elle tient par la main une fillette qui garde son visage baissé comme si elle ne voulait pas qu'on puisse le voir.
Bonjour docteur, je viens pour ma fille. Je suis très inquiète. Elle ne mange plus, ne dort plus, ne rit plus. Et le pire, c'est qu'elle ne veut plus aller à l'école. Elle dit qu'on se moque d'elle. C'est à cause de son nez, je crois.
La fillette est assise dans un fauteuil un peu trop grand pour elle. Elle ne dit rien. Ses jambes se balancent dans le vide. Et elle regarde ses chaussures, comme si elle espérait qu'elles allaient soudain se mettre à marcher toute seule et la tirer de cet endroit-là.
Tout ça, le docteur Sigismond, pour attirer son attention. La fillette lève des yeux immenses et tristes. Sigismond lui sourit. Il se cale au fond de son fauteuil, met la main sur son carnet et son crayon et dit d'une voix très douce, aussi douce que le chant qui monte du monde.
Alors, ça ne va pas ? Raconte-moi tout. Prends ton temps. Je t'écoute. Je t'écoute très attentivement. Tu vois, j'ouvre tout grand mes grandes oreilles.
Sigismond Shlomo Freud est né en 1856 à Freiberg, en Moravie. Il est l'aîné de 7 frères et sœurs. Sa famille, très pauvre, s'installe à Vienne, en Autriche. Sigismond est un élève brillant. Il entame des études de médecine. À 22 ans, il change son prénom en Sigmund. Devenu médecin, il invente la psychanalyse, une méthode où l'on écoute les gens pour les aider à aller mieux. On leur demande pour cela de raconter leurs souvenirs d'enfance, leurs rêves. Cette méthode sera connue dans le monde entier et le rendra célèbre. Mais parce qu'il est juif, Sigmund Freud est obligé de quitter Vienne. Les nazis qui veulent exterminer les juifs menacent toute sa famille.
Sigmund Freud trouve refuge à Londres en juin 1938. Il y meurt le 23 septembre 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Retour en plateau après les oreilles de Sigismond, je vous propose d'écouter la version de La fille du loup de Patrice Favaro par les élèves de CM1 et CM2 de Perruy, la classe de Maureen Kennedy.
Oh
Il se tenait à la lisière d'une épaisse et sombre forêt. Comme d'habitude, il regardait avec une extrême attention ce qui se passait plus bas dans la vallée. Au milieu d'une prairie paissée de belles et crasses brebis, il aurait bien aimé s'en approcher, mais le berger et ses chiens veillaient sur le troupeau. Il savait ce qu'il lui en coûterait de se montrer. C'était un loup. Un vieux loup doté d'une gourmandise démesurée. Ce n'était pas là son seul défaut. Les loups libres et fiers qui arpentaient le pays ne le fréquentaient guère. Il n'était pas digne d'appartenir à leur corporation. C'était un loup paresseux. Affreusement paresseux. Jamais il n'avait couru après un chevreuil, un cerf, une biche. Jamais il n'avait poursuivi un chamois ou un mouflon sur les pentes escarpées des montagnes. Non, ce loup-là fuyait l'effort. Il préférait rester assis des journées entières à bonne distance du troupeau de brebis, se contentant de mettre la patte sur les jeunes étendis qui échappaient de temps à autre à la surveillance du berger et s'égaraient dans sa direction. Il les croquait alors sans avoir eu à mener la moindre chasse. Un déshonneur pour tout vrai loup qui se respecte. À plusieurs reprises par le passé, il s'était approché du troupeau, mais uniquement la nuit, quand le berger et ses chiens dormaient paisiblement dans leur chalet d'alpage, après avoir conduit les brebis à la bergerie. Travestissant sa voix, il avait essayé de convaincre celle-ci de soulever le loquet qui fermait la porte en se faisant passer pour un mouton perdu venu d'un troupeau voisin. Il les avait suppliés de lui laisser passer la nuit en sécurité à l'intérieur du bâtiment. Il savait se montrer persuasif. Mais alors qu'il touchait presque au but, il avait poussé à chaque fois un long hurlement de joie carnassière.
Aouh !
Qui trahissait sa nature de loup et dévoilait trop tôt son stratagème.
J'ai encore fait un malheureux dérapage.
Avec l'âge, ses dents s'étaient émoussées, mais nullement son appétit. Ce jour-là, donc, il salivait à la vue de belles brebis, tout en se lamentant d'avoir le ventre vide, quand une ombre furtive se glissa entre les arbres de la forêt. Le vieux loup ne broncha pas. Il n'y avait aucun danger. Son odorat lui disait depuis un moment déjà que sa fille s'en venait le rejoindre. C'était une louve qui lui ressemblait autant par la gourmandise que par son coupable penchant à la paresse. Tous deux contemplèrent durant un long moment le troupeau en se léchant les babines.
Ah, ma fille! Quel beau rêve de s'imaginer lâché dans leur bergerie. Un jour, réussiras-tu peut-être, là où j'ai toujours échoué?
Je ne sais comment m'y prendre, mon cher père, pour ne pas les effrayer. Notre allure, la couleur de notre poil, nos crocs acérés, nos hurlements lugubres, voilà ce qui nous trahit. Comment passer auprès de ces brebis pour ce que je ne suis pas?
C'est cela qu'il te faudra découvrir.
La jeune louve se mit à réfléchir intensément. Elle était plus rusée que son père, et la faim dévorante qu'on connaît à cet âge la rendait plus redoutable encore.
Tout d'abord, je pourrais changer de pelage. Il me faut avoir une allure différente et cacher ma brune pelisse. Je pourrais m'habiller couleur de nuit pour passer inaperçu. Je serais assez tentée par un beau bleu marine.
Le vieux loup acquiesça.
Le bleu marine, ça va avec tout.
Pour les crocs, j'apprendrai à ne pas les montrer.
Parfait. Mais comment feras-tu pour ne pas te mettre à hurler au dernier moment, comme nous le faisons, nous autres loups affamés?
Sa fille se mit à rire en claquant des dents. Elle ne parvenait pas encore à se maîtriser correctement.
Les hurlements, ce sera ton registre, mon cher père. Tandis que ta voix si monstrueuse résonnera dans la nuit, la mienne paraîtra, par comparaison, beaucoup plus douce, brebis. Fais-moi confiance, je saurai me tenir. Avec moi, il n'y aura pas de dérapage.
Le vieux loup éprouva une bouffée de fierté. Quel talent sa fille montrait! C'était bien son sang qui coulait dans ses veines.
Place aux jeunes, ce soir c'est mon tour, je vais tenter ma chance à la bergerie.
Une belle nuit, avec une lune ronde et rousse qui baignait de sa douce lumière les abords de la bergerie. La louve s'approcha sans bruit. Elle portait une pelisse bleu marine qui rendait sa silhouette difficilement visible. Son camouflage ne s'arrêtait pas là. Elle avait eu l'audacieuse idée de blanchir le poil brun qui dépassait malgré tout de son habit. Elle avait enduit sa gueule, ses oreilles pointues, sa longue queue et le bout de ses pattes griffues avec de la craie blanche trouvée dans une carrière abandonnée des environs. La louve prêta l'oreille en direction du chalet d'alpage, où le berger dormait avec ses chiens. Tout y était silencieux. Elle entreprit alors de frapper discrètement à la porte de la bergerie. Une voix ensommeillée bêla.
« Ah, qui est là ?»«
Quelqu'un comme vous. »
Une seconde brebis répliqua.
« Passez votre chemin. À cette heure de la nuit, qui cela pourrait-il être d'autre qu'un vieux loup dégoûtant ? Nous connaissons la chanson. »«
Vous n'y êtes pas du tout. Je ne suis pas celle que vous imaginez. D'ailleurs, écoutez, le loup entend hurler là-bas, dans le lointain. »
Les brebis prêtèrent l'oreille. Elles entendirent en direction de la forêt les cris glaçants d'un loup qu'elles ne connaissaient que trop.
Qui êtes-vous alors ?
Une amie qui vous veut du bien. Regardez par un trou de la porte afin de vous assurer que je suis bien pareil à vous.
Les brebis se pressèrent en grand désordre pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Elles virent une créature qui leur ressemblait somme toute assez. Quatre pattes, une paire d'oreilles, une queue, rien que du poil clair, et pas le moindre croc en vue. De plus, l'inconnue était plutôt élégante et elle souriait aimablement.
« Je suis là pour vous aider à vous échapper. Soulevez donc le loquet qui vous enferme à l'intérieur et je vous conduirai vers la liberté. »«
Mais nous ne sommes pas prisonnières !»«
Ah non ? Et ces clôtures dans la prairie et cette bergerie où l'on vous conduit pour la nuit.
Si ce pour nous protéger du loup que nous y sommes, et nous le devons à la bonté de notre berger. Il veille sur nous comme sur ses propres enfants.
Ces pauvres enfants, pauvres naïves, croyez-vous qu'ils vous protègent sans profiter de vous ? Que vous êtes donc sottes ? Ils vous exploitent honteusement, ils vous tournent la laine sur le dos, vous soutirent votre lait, et au moindre écart, il lance ses chiens sur vous. N'est-ce pas vrai ?
Tout cela n'est pas faux.
Et vos agneaux, ne les voyez-vous pas disparaître mystérieusement, les uns après les autres ? Qui d'autre que le berger les soutra à votre affection de mère ?
Tout cela n'est pas faux.
Ouvrez donc, n'ayez pas peur. La liberté vous attend. Je vous conduirai vers des contrées qui ne connaissent ni loup ni berger. Faites-moi confiance et je serai votre guide.
À l'intérieur de la bergerie, les discussions allaient bon train. Nombre de brebis étaient excitées à l'idée de pouvoir librement gambader dans la nuit. D'autres, celles que la prudence conduisait, affirmaient qu'il ne faut jamais croire aux belles promesses. Le temps passait et aucune des deux opinions ne l'emportait. C'est alors que la louve en plumes marines eut une idée de génie.
Vous n'avez qu'à voter. L'avis des plus nombreuses triomphera. Les autres s'y soumettront.
Les brebis trouvèrent l'idée excellente. Elles votèrent en levant la patte, mais comme certaines, en soulevèrent deux à la fois pour tricher, cela compliqua quelque peu le comptage. Au final, cependant, aucune majorité distincte ne se dégagea. Il y avait autant de voix pour que de voix contre. L'aube n'allait pas tarder à se lever et le berger à se réveiller. La louve, dont le ventre criait plus que jamais famine, n'avait pas une minute à perdre pour arriver à ses fins.
« Vous avez toutes voté ?»
Les brebis s'étonnèrent.
Oui ! Pourquoi ?
Même celles d'entre vous qui ont le poil noir ?
Naturellement !
Alors ça ne compte pas, il faut recommencer. Une brebis c'est blanc, un poil, je veux dire un point c'est tout.
L'une d'entre elles, qui se sentait directement mise en cause, expliqua.
Mais il y en a toujours quelques-unes de noires dans le troupeau, c'est inscrit dans les lois de la nature.
La louve tenait sa réponse toute prête. Elle salivait déjà, la porte allait s'ouvrir, elle en était sûre.
Dans la nature, qui d'autre a le poil brun justement? Je vous le demande un peu. Qui d'autre a parlé loup eux-mêmes?
Une immense clameur résonna dans la bergerie. Chaque brebis tentait de faire entendre son point de vue sur la question. Les unes proclamèrent
« Qu'importe la couleur, nous sommes toutes sœurs !»
Tandis que d'autres bêlaient avec indignation.
« Pas de poils bruns chez nous! Dehors les étrangères! Dehors les traîtresses !»
La situation s'envenima et l'on ne tarda pas à en venir au coup de sabot. C'est alors qu'une des brebis affolées s'écria
« Il nous faut quelqu'un qui soit capable de mettre un peu d'ordre dans tout ça !»
Elle décida d'ouvrir la porte à la nouvelle venue. Puisqu'elle s'était proposée comme guide, avec elle, le troupeau allait peut-être enfin filer droit.
À l'instant même où l'inconsciente brebis allait soulever le loquet et permettre ainsi à la louve d'entrer, il s'en trouva une autre plus avisée pour l'arrêter dans son geste et ramener ses sœurs à la raison.
Comment pouvez-vous être aussi ignorante? Ne comprenez-vous pas qu'il s'agit de nous diviser pour mieux nous mettre la patte dessus? Vous imaginez que quelqu'un qui nous charme par sa seule bonne mine, qui nous chante un beau discours, puisse venir ainsi au milieu de la nuit, sans vouloir se payer sur notre dos. Et quand je dis notre dos, je devrais plutôt parler de notre viande et de nos os. Il y a du loup là-dessous.
L'assemblée des brebis frissonna à ces mots. Celle qui était dotée de sagesse continua.
Cependant, voyez-vous, sa proposition m'a donné à penser. Approchez, venez tout près. Il faut que rien ne filtre de ce que j'ai à vous dire.
Dehors, la louve s'impatientait. De la bergerie, ne montaient plus que des chuchotements qui lui demeuraient incompréhensibles. Enfin, à sa grande joie, elle entendit qu'on tirait le loquet de la porte. Elle allait pouvoir bondir aussitôt à l'intérieur tout d'en dehors et il n'en fut rien. Renversé par un raz-de-marée de brebis innombrables qui la piétinèrent avec une furieuse énergie, la louve ne dut son salut qu'à une fuite éperdue. Emportée par leur élan, les brebis traversèrent la prairie comme une tornade en direction de la forêt. Le vieux loup, les yeux encore écarquillés de plaisir en voyant tout le troupeau arriver vers lui, ne pensa pas à fuir comme sa vie, pas même quand il comprit que 1000 sabots effilés s'apprêtaient à le fouler. Sa gourmandise lui fut fatale. Cela fait, les brebis retrouvèrent leur calme. Elles tinrent conseil au beau milieu de la prairie, éclairée par la lune. À quoi bon retourner dans la bergerie? Elles savaient désormais ce qu'il convient de faire avec les loups. Nul besoin d'un berger et de ses chiens pour s'en protéger. Une brebis qui avait le sens de la formule lança.
C'est l'union qui fait notre force. Unis, nous sommes invincibles.
Vive la liberté! Les prêts sont à nous!
Elles se mirent en route pour gagner joyeusement les verts pâturages de leur choix. Jamais plus elles ne se laisseraient tomber.
Quant à la fille du loup, la leçon fut si cuisante qu'elle quitta définitivement la région pour de très lointaines contrées, là où les brebis se conduisent toujours, hélas, comme de vulgaires moutons. Des voyageurs qui sont passés par là prétendent qu'elle a définitivement renoncé à sa vie en bleu. Après avoir connu une si terrible peur face à des brebis déchaînées, une peur bleue en vérité, elle a désormais cette couleur en horreur. C'est pourquoi son pelage a retrouvé celle qu'il avait à l'origine. Une couleur qui ne trompe personne. La brune.
Et voilà, les quatre enregistrements ont été diffusés dans leur version finale. Ils seront disponibles sur notre site internet fréquencemistral.com et je suis certain qu'ils auront marqué les jeunes lecteurs. J'en profite pour féliciter et remercier tous les partenaires de l'opération, Katia Veillant et Suzelle Badet de la médiathèque, les enseignants et les enfants qui ont très bien joué le jeu et avec talent pour la plupart, mon collègue Mario Poncelet pour les montages sonores et bien sûr l'auteur Patrice Favaro dont la plume avec cette opération a trouvé une ou plutôt plusieurs voix. Voilà, c'est la fin de ces émissions spéciales hier et aujourd'hui consacrées aux lectures radiophoniques des textes de Patrice Favaro. Nous retrouvons le cheminement logique et normal du journal régional demain avec notamment un reportage sur la marche des migrants qui se déroule actuellement entre Briançon et Gap. Merci Evan pour la régie, bonne journée à tous, à demain.
Merci François, on se retrouve demain. Au revoir.